Des goûts et des couleurs, on ne peut discuter. C'est ce que la sagesse populaire nous apprend en tout cas. Mais au fait, ça veut dire quoi le goût ? Avoir mauvais goût ou le goût du risque ? Avoir des goûts simples ou le goût amer des souvenirs ? Avoir le goût de rien ? Prendre goût à faire ci ou ça ? Trouver un homme à son goût ? Au goût du jour. Mais avant tout et surtout, le goût. N'est-ce pas cette sensation que nos papilles de la langue recherchent ? Un goût sucré ou salé, acide, umami ou amer ? À l'heure où les compléments alimentaires constituent un marché en pleine expansion, lire ou relire le roman « Chocolat amer » de Laura Esquivel nous invite à mettre de côté ces petites boîtes de gélules au goût insipide. Son roman est une ode au plaisir de la cuisine, de la lenteur. Quoi de plus convivial que de s'asseoir et de partager un bon repas avec ses amis ou sa famille, nous dit-elle. Et est-ce que l'on ne serait pas en train de perdre cet art de vivre ? L'écrivaine Laura Esquivel nous invite à sacraliser la maison et en particulier la cuisine. Au menu du jour, Laura Esquivel nous offre les recettes suivantes. Petit pain pour Noël, gâteau chabella, caille aux pétales de rose, dindon aux amandes et au sésame, chorizo du Nord, pâte à allumettes, bouillon de queue de bœuf, chapanne d'ongo, couronne des rois, torreiras de natas, haricots au piment de la Tescucana, piment aux noix. Oui, aujourd'hui la littérature s'invite dans la cuisine. À moins que ce ne soit le contraire. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cordel. Ce podcast est consacré aux femmes de lettres, à celles qui nous montrent le chemin. Plongeons dans la mémoire et l'imagination d'une écrivaine surprenante. Découvrons ensemble son parcours, son quotidien, son style, ses inspirations et ses combats. Aujourd'hui, partons sur les traces de Laura Esquivel. Née en 1950, Laura Esquivel est une écrivaine mexicaine rendue célèbre pour son roman « Chocolat amer ». Est-ce que vous connaissez l'histoire tragique de Tita et Pedro ? Ce ne serait pas si étonnant, si ce n'est pas le cas. Car Laura Esquivel a connu un succès fulgurant dans les années 90, mais aujourd'hui, son nom n'est pas familier des nouvelles générations. Avant de se consacrer à la littérature, Laura Esquivel travaille dans l'enseignement. Elle fonde un atelier de théâtre et de littérature pour les enfants. Pour elle, l'éducation est seulement possible à travers l'art. Elle travaille aussi comme scénariste pour le cinéma. Elle écrit en tout une dizaine de romans. Elle se lance aussi en politique en se présentant comme candidate locale en 2007. Et de 2008 à 2011, elle assume la charge de directrice générale de la culture du district fédéral de Coyoacán. En 2015, elle est élue députée fédérale du parti du Morena. Elle est la première écrivaine à recevoir le prestigieux prix américain Bookseller Book of the Year en 1994. Son premier roman est publié en 1989. Chocolat amer est considéré aujourd'hui comme un classique de la littérature latino-américaine. Il a été traduit en 35 langues et a été adapté au cinéma sous le titre Les épices de la passion. Ce roman s'est vendu à plus de 4 millions d'exemplaires dans le monde. Chocolat amer est un récit épicé haut en couleur qui mélange parfums et saveurs au début du XXe siècle dans un Mexique en pleine guerre civile. Et dans cette tempête révolutionnaire, Tita, l'héroïne, est éperdument éprise de Pedro et elle va braver les interdits pour vivre cette passion impossible. Alors, Tita est la benjamine d'une famille de trois sœurs et elle est vouée au célibat. Une tradition familiale obscure oblige en effet la jeune fille à rester au service de sa mère toute sa vie. Hélas, Tita est amoureuse de Pedro et c'est réciproque. Mais la mère de Tita va faire en sorte que Pedro épouse la sœur de Tita, qui s'appelle Rosaura. Pedro va accepter d'épouser l'aînée, car il croit que c'est sa seule chance de pouvoir rester auprès de son amante. Tita est désespérée. La famille de Tita, enfin surtout la mère, est hautement toxique et prend soin de la rendre très malheureuse. À cette intrigue empruntée à la littérature sentimentale, Laura Esquivel mêle des recettes de cuisine. Car Tita possède d'étranges talents culinaires. Ses cailles aux pétales de rose, par exemple, ont un effet aphrodisiaque. Ses gâteaux ont un pouvoir destructeur. Ceci dit, ce n'est pas tant cette histoire qui est marquante, mais l'atmosphère qui s'en dégage. C'est là tout le génie de l'écrivaine Laura Esquivel. Les recettes et l'importance accordée à la nourriture, au plat, n'y est pas étrangère. En fait, le roman est divisé en 12 chapitres, un pour chaque mois de l'année, et met à profit les talents culinaires de Tita. Par exemple, en janvier, ce sont les petits pains de Noël. En février, c'est le gâteau Chabella, etc., etc. Ça donne une lecture délicieuse et épicée. L'amour de la vie est exalté dans ces pages dans un style joyeux et tendre. Le roman est aussi fortement empreint de réalisme magique. Oui, la cuisine de Tita est magique. Quiconque la goûte subira les effets de son humeur ou les conséquences de ses souhaits. Elle-même ne semble pas consciente de cette magie d'ailleurs. Voilà, alors la magie s'invite dans la vie quotidienne. Le réalisme magique ici renvoie aux grandes œuvres de la littérature latino-américaine. On pense forcément à l'ambiance de « Cent ans de solitude » de Garcia Marquez. Ou ça fait aussi penser au « Cœur cousu » de Carole Martinez. Chocolat amer est aussi un roman historique. À cause de tout l'aspect documentaire de la vie quotidienne du début du XXe siècle. On découvre dans ce roman, par exemple, le travail d'une ferme mexicaine, les astuces de conservation en l'absence de réfrigérateur. Et c'est aussi un roman historique car l'auteur dépeint en toile de fond la Révolution mexicaine. Ce livre allie beauté, tristesse, sensualité, érotisme même et injustice. On ressent une profonde colère devant ce qu'endure l'héroïne Tita. Et il faut lire les dernières pages pour découvrir pourquoi la mère de Tita est aussi odieuse, méchante, violente envers sa fille. D'ailleurs, l'auteur décrit avec justesse la relation toxique entre une mère et sa fille. Maintenant que l'on en sait un peu plus sur ses œuvres, on comprend mieux ce qui anime notre écrivaine, ce qui lui donne envie d'écrire. Laura Esquivel défend cet art qui se transmet de génération en génération et qui ne s'apprend pas à l'université. Elle se dresse en défenseuse des savoirs vernaculaires. Et l'art culinaire, bien évidemment. Elle veut redonner de l'espace à cette cuisine qui nous rappelle nos grands-mères en train de nous préparer des bons petits plats. Et peu importe les recettes finalement, ce qui compte, c'est cet espace de vie, de saveur. Ce qui est assez original dans le parcours de Laura Esquivel, c'est que son envie d'écrire des romans est partie de son ras-le-bol de voir ses scénarios déformés par des producteurs. En effet, en tant que scénariste pour le cinéma, elle n'avait pas le dernier mot. Et donc elle explique dans une interview à l'Université nationale autonome de Mexico que le roman lui offrait la liberté de raconter une histoire sans pression extérieure et sans coupe ou mutilation de son récit. Bon, mais Laura Esquivel ne choisira pas seulement l'écriture et l'art pour changer le monde qui l'entoure, elle choisira aussi la voie politique, mais avec la culture et l'éducation comme fer de lance. Quelles sont les inspirations de cette écrivaine mexicaine? Clairement, Laura Esquivel s'inspire du courant littéraire appelé « réalisme magique ». Alors, c'est l'idée que l'imaginaire fait partie de la réalité et que la frontière entre les deux doit être aboli. L'exemple le plus souvent cité comme le modèle parfait de ce type de récit est « Cent ans de solitude » du Colombien Gabriel Garcia Marquez. Dans les romans empreints du réalisme magique, l'intervention du paranormal ou du surnaturel dans l'œuvre n'est pas remis en question par les personnages, comme si ces bizarreries, ces étrangetés, ces mystères allaient de soi. C'est pourquoi c'est différent du fantastique, car dans ce cas de figure, tout ce qui est irrationnel crée des angoisses. Et le réalisme magique est aussi très différent de la fantaisie et du merveilleux car la magie fait partie du quotidien et non d'un monde parallèle. Alors, Laura Esquivel s'inspire également de sa vie puisque son propre père était télégraphe tout comme son personnage principal dans son roman « Vive comme le désir ». Elle n'a également jamais caché la part d'autobiographie dans « Chocolat amer » comme son héroïne. Elle avait une mère assez autoritaire. Laura Esquivel s'inspire aussi de son pays et de ses coutumes. C'est comme ça qu'elle a choisi le titre de son célèbre roman « Chocolat amer ». Mais pour le comprendre, il faut revenir à la version espagnole, « como agua para chocolate ». Voilà, c'est une maxime mexicaine. quand tu es très en colère, au Mexique, tu dis « je suis comme de l'eau pour du chocolat ». Oui, parce qu'il y a longtemps, on faisait du chocolat avec de l'eau. Il fallait attendre que l'eau soit sur le point de bouillir pour verser le chocolat. Comment pourrait-on décrire le style de cette écrivaine mexicaine? Qu'est-ce qui fait sa singularité? Disons de prime abord que le style de Laura Esquivel est très original par ses recettes de cuisine insérées. Elle est la première à le faire. Donc, ce qui est particulièrement intéressant dans son style, c'est cette place qu'elle laisse aux tâches domestiques. C'est original et déroutant. Peut-être qu'elle a d'ailleurs inspiré la couleur des sentiments de Catherine Stockett, qui insère elle aussi dans son récit des conseils ménagers. Le style de Laura Esquivel est également très influencé par son expérience par le théâtre et le cinéma. Elle construit la structure de son roman et ses personnages comme si elle écrivait un scénario de film. Alors, aujourd'hui, ce procédé est très souvent repris par les écrivains qui voient en l'adaptation cinématographique de leur œuvre une source d'enrichissement. Mais en ce qui concerne Laura Esquivel, elle a fait le chemin inverse. Elle est passée du scénario au roman. Donc son écriture fait que l'on imagine très facilement les scènes de son roman, comme si elles se passaient sous nos yeux. Laura Esquivel éveille nos papilles et fait danser nos yeux. L'écrivaine est aussi très influencée par son expérience dans le théâtre, et le personnage de Tita joue d'ailleurs un rôle. Par exemple, lors du mariage de sa sœur, qui épouse l'homme qu'elle aime. Voilà, Tita porte le masque du bonheur. Maintenant que l'on connaît l'histoire mythique de Tita et Pedro, lisons quelques extraits. Le mariage de Pedro et Rosaura l'avait laissé comme la caille, tête et âme brisée, et plutôt que de causer à la bestiole la même souffrance, elle eut pitié et l'acheva rondement. Pour les autres, ce fut plus facile. Elle n'avait qu'à imaginer que chacune des cailles avait un œuf tiède coincé dans le jabot et qu'elle lui épargnait le martyre en lui tordant le cou. Quand elle était petite, elle avait souvent souhaité mourir plutôt que d'avaler, au petit déjeuner, l'œuf tiède obligatoire. Mama Elena la forçait à le manger. Elle sentait son œsophage se nouer fort, très fort. Elle devenait incapable de déglutir le moindre aliment jusqu'à ce que sa mère lui file une bonne gifle qui avait le miraculeux effet de défaire le nœud. Cela la rendit plus sereine et elle réalisa les étapes suivantes avec une grande dextérité. On aurait dit que c'était Nacha elle-même qui, dans le corps de Tita, plumait les oiseaux à sec, leur ôtait les viscères et les mettait à frire. Une fois l'écaille plumée et vidée, attachez-leur les pattes pour qu'elles restent jolies, tandis que vous les faites dorer dans le beurre, poivrer et saler à votre goût. Il est important de plumer les cailles à sec. Les plonger dans l'eau bouillante leur fait perdre de leur goût. C'est l'un des innombrables trucs de cuisine qu'on acquiert avec la pratique. Comme Rosaura ne participait plus aux activités culinaires depuis qu'elle s'était brûlée les mains sur le comal, elle ignorait bien sûr presque tout de la gastronomie. Pourtant, est-ce pour impressionner Pedro, son mari, ou pour concurrencer Tita sur son propre terrain? Elle se risqua un jour à cuisiner. Lorsque Tita, aimable, voulut lui donner quelques conseils, Rosaura se vexa profondément et la pria de la laisser seule dans la cuisine. Comme il fallait s'y attendre, le riz était collé, la viande trop salée et le dessert brûlé. À table, personne n'osa faire la moindre grimace car Mama Elena avait déclaré « C'est la première fois que Rosaura fait la cuisine et je trouve qu'elle ne s'est pas trop mal débrouillée. Qu'en pensez-vous, Pedro ?» Pedro fit un effort surhumain pour répondre sans blesser sa femme. « Non, pour une première fois, ce n'est pas si mal. » Bien entendu, l'après-midi, toute la famille fut malade. Ce fut un désastre, mais ce fut pire encore le jour des cailles. Le mélange entre le sang de Tita et les pétales de rose offertes par Pedro se révéla explosif. Quand on installa à table, l'atmosphère était un peu tendue, mais il ne se passa rien tant qu'on n'eut pas servi les cailles. À ce moment, non content d'avoir déjà provoqué la jalousie de sa femme, Pedro fut incapable de se retenir. À la première bouchée, les yeux fermés dans une expression de véritable jouissance, il s'exclama « C'est un délice divin !» Mama Elena trouvait aussi le plat exquis, mais ce commentaire l'irrita et elle maugréa « Trop de sel !» Rosaura prétexta des nausées et des vertiges pour n'en avaler que trois bouchées. Mais le plus étrange fut ce qui arriva à Gertrudis. On aurait dit que le plat avait sur elle un effet aphrodisiaque. Elle commença par ressentir une chaleur intense dans les jambes, un chatouillement au bas du ventre, l'empêchait de s'asseoir correctement. Elle se mit à transpirer et à se demander quel effet cela lui ferait d'être à cheval dans les bras d'un partisan de Pancho Villa, celui qu'elle avait vu une semaine plus tôt sur la place du village, qui sentirait la sueur, la terre, le danger et l'incertitude des levées au petit matin, la vie et la mort. Elle se rendait au marché avec la servante Chencha quand elle l'avait vu arriver par la rue principale de Piedras Negras à la tête d'une troupe dont il était sans doute le chef. Leurs regards se croisèrent, elle se mit à trembler. Elle lut dans ses yeux les nombreuses nuits passées près du feu, tenaillée par le désir d'embrasser une femme, de l'enlacer, une femme comme elle. Elle sortit son mouchoir, tenta d'effacer avec la sueur ses coupables pensées. Peine perdue, il se passait quelque chose de bizarre. Elle chercha de l'aide auprès de Tita, mais cette dernière était absente. Son corps était bien sur la chaise, très correctement assis, mais il n'y avait dans ses yeux aucun signe de vie. C'était comme si, par une extraordinaire réaction alchimique, son être s'était dissous dans la sauce des roses, dans la chair des cailles, dans le vin et dans chacun des effluves du repas. Tita s'insinuait dans le corps de Pedro, voluptueuse, aromatique, chaude, sensuelle. On aurait dit qu'ils avaient découvert un nouveau mode de communication. Merci pour votre écoute. On se retrouve dès la semaine prochaine. Le prochain podcast sera consacré à l'écrivaine Shen Ying.